30 avril 2018, dernier jour d'avril déjà, et vous écoutez au quotidien des quotidiens votre revue de presse. Vous l'entendez, ce n'est pas Hélène Denis qui est là aujourd'hui avec vous, qui a l'énorme défi de la remplacer encore aujourd'hui, mais rassurez-vous, Hélène reviendra avec le mois de mai demain. Aujourd'hui, donc, dans l'actualité, plusieurs choses. On parle de garderie en bien, en mal, on parle d'environnement, bien sûr, mais aussi d'attentats. C'est avec ça qu'on va commencer dans quelques instants. Mais auparavant, puisque la tradition l'oblige, qu'est-ce qui s'est passé un 30 avril?
Un 30 avril, François, eh bien, en 1658, Marguerite Bourgeois ouvre une première école pour jeunes filles à Montréal. 30 avril 1789, George Washington entre en fonction comme premier président des États-Unis. 1803, en France, Napoléon Bonaparte vend aux États-Unis la Louisiane qui, à l'époque, s'étend du Mississippi jusqu'aux Rocheuses. 1897, la découverte de l'électron est annoncée devant la Royal Institution par un physicien britannique, Joseph John Thomson. 1945, 30 avril, peut-être un des événements les plus connus, quoique la date n'est peut-être pas connue de tous, mais un des grands événements en ce 30 avril 1945, M. Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin, alors assiégé par l'armée rouge.
Et il y a encore plein de théories du complot qui dit que c'était pas vraiment un suicide puisque le cadavre a été brûlé avec ce qui restait d'essence dans le bunker et qu'on n'a jamais pu faire une identification formelle.
Bon, donc on présume qu'Adolf Hitler n'est possiblement pas encore mort, comme Elvis et Michael Jackson?
Peu probable puisqu'il avait déjà le Parkinson à ce moment-là.
1971, le premier ministre Robert Bourassa annonce l'aménagement des rivières du bassin de la baie James et le gouvernement libéral adopte la loi créant la Société de développement de la baie James et la Société d'énergie de la baie James. 30 avril 1987, au lac Meech, dans les collines de lac Gatineau, Brian Mulroney et les premiers ministres des provinces établissent un accord censé faire adhérer le Québec à la Constitution de 1982.
Dans l'honneur et l'enthousiasme, disait à l'époque Brian Mulroney.
Absolument. Plusieurs Québécois ont encore un grand sourire en pensant à cette date. 30 avril 1988, un an plus tard, à Dublin, Céline Dion remporte le concours Eurovision à l'âge de 20 ans. 1939, je fais un retour en arrière, le chef de la Gestapo nazie, Heinrich Himmler, ordonne la construction du camp d'Auschwitz dans le sud de la Pologne. Ces camps de concentration, bien sûr, qui tueront plusieurs millions de Juifs et autres Européens jusqu'en janvier 1945. On revient dans les années un peu plus récentes. 1989, toujours un 30 avril, au Marathon de Paris, le Cherbourgois André Vigée remporte l'épreuve en fauteuil roulant. 1997, Ellen DeGeneres, cette animatrice américaine, fait son coming out à la télévision. Et 2014, le maire de Toronto de l'époque, Rob Ford, annonce qu'il quitte temporairement ses fonctions pour obtenir de l'aide pour régler ses problèmes de toxicomanie. On s'en souvient de ce vidéo qui avait circulé le montrant en fumant du crack alors qu'il était maire de Toronto. 30 avril 1623, anniversaire de naissance de François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec. 1933, naissance de Willie Nelson, ce chanteur country. 1956, du réalisateur danois Lars von Trier. 30 avril 1989, décès du réalisateur italien Sergio Leone, qui nous a donné multitude de films western spaghetti. Et en 2002, Sylvain Lelièvre, auteur, compositeur et interprète québécois, s'éteignait. Et pour clore cette petite chronique, 30 avril, deux thématiques pour aujourd'hui. Tout d'abord, la Journée internationale du jazz. Et également, c'est officiellement la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité pour l'accessibilité universelle. Pour un accès libre, journée mondiale qui est cependant très peu soulignée ailleurs qu'en France, mais bon.
Allez, on commence immédiatement avec la presse et on vous parle de l'attentat de la semaine dernière, celui qui a fait 10 morts à Toronto. Des milliers de personnes participent à une veillée à Toronto. C'est Salman Farouki de la presse canadienne qui signe le texte. Des milliers de personnes, dont de nombreux politiciens et des leaders religieux, se sont rassemblés dimanche soir pour célébrer la mémoire des victimes de l'attaque au camion Bélier perpétrée la semaine dernière à Toronto. Après avoir défilé dans les rues au cours d'une marche de guérison et de solidarité, en suivant l'itinéraire suivi par le véhicule qui a fauché plusieurs piétons en en tuant 10 et en en blessant 16 autres, elles ont participé, malgré la température froide, à une veillée à la chandelle. Plusieurs dignitaires sont venus partager la peine et le deuil de ces milliers de Torontois et écouter des leaders communautaires et religieux. Ils ont pu aussi entendre des chants interprétés par différents chœurs. Parmi eux, la gouverneure générale Julie Payette, le premier ministre fédéral Justin Trudeau, ses homologues québécois et ontariennes Philippe Couillard et Kathleen Wynne, ainsi que le maire de Toronto, John Tory. Je suis venu porter des messages d'amitié et de solidarité de leurs voisins. Nous sommes un peuple qui a connu des moments tragiques semblables. Souvenons-nous récemment à Québec, de la Polytechnique de Dawson. Ce sont des moments où la solidarité, l'amitié et le deuil partagé prennent le dessus. Tous les Québécois et Québécoises ont été émus par ce qu'ils ont vu et par le courage et la force de la population de Toronto, a déclaré M. Couillard sur les ondes de Radio-Canada au terme de la marche et avant la veillée à la chandelle. La cérémonie s'est terminée par la voix de milliers de personnes entonnant l'O Canada. Auparavant, plusieurs orateurs, dont des rabbins, un imam et un moine bouddhiste, se sont adressés à la foule pour la consoler, la revigorer et lui donner de l'espoir. Certains d'entre eux ont félicité les services d'urgence pour le travail qu'ils ont accompli au cours du drame. À Toronto, en Ontario, au Canada, nous ne nous enfuyons pas, nous courons à l'aide de notre prochain, a lancé le rabbin Baruch Friedman Cole. Celui-ci a aussi fait référence aux autres attaques semblables perpétrées à Beyrouth, à Charlottesville et à Londres. Toronto a ressenti la douleur qu'ont subi ces autres endroits. Ces villes partagent avec nous l'horreur et les souffrances. Les forces policières étaient fort présentes sur les lieux de la cérémonie. Les gens ont besoin de se rassembler, de commencer le processus menant à la guérison et de communiquer les uns avec les autres, a déclaré une porte-parole de la police, Katrina Harrogate. Chacun a été affecté de façon différente par cet événement. Quelques 200 personnes ont contribué à l'organisation de cet événement œcuménique. L'un des bénévoles, Kevin Joachin, a dit que c'était pour lui une occasion d'aider la communauté à se relever après la tragédie. Cela a vraiment aidé jusqu'à présent. Seulement par le nombre, l'appui, les encouragements, a-t-il lancé. L'événement d'aujourd'hui nous permet de démontrer, pas seulement à cette communauté, mais à l'ensemble de la ville de Toronto, que nous sommes forts et que nous allons continuer à aller de l'avant. Jennifer Ludlow a participé à la marche. Elle a raconté que plusieurs de ses amis ont été témoins du drame et ont tenté de secourir les victimes. C'est incroyable de voir que sur cette partie de la rue, il y a tant de gens qui sont affectés par cet événement, a-t-elle dit. Se rassembler nous permet de nous unir et de démontrer que l'espoir est à nos côtés. Une autre marche avait lieu en fin de semaine à Montréal et assez étrangement pour commémorer quelque chose qui va arriver demain. C'était la marche du 1er mai. Revendication avant les élections, c'est le titre de Fanny Lévesque. Des centaines de travailleurs venus des quatre coins de la province ont convergé samedi vers le Parc olympique pour souligner la Fête internationale des travailleuses et travailleurs du 1er mai. La marche annuelle prend un sens bien particulier en cette année d'élection générale au Québec, ont indiqué les organisateurs. « Paraît que le 1er octobre prochain, nous serons aux urnes », a affirmé la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise Chabot, la CSQ, avant le départ. « Pour les travailleurs du Québec, c'est clair. » Le parti au pouvoir, comme ceux qui aspirent à le prendre, devront prendre parti du côté des travailleurs, a-t-elle assuré. Les représentants des autres grands syndicats de la province, tous présents samedi, abondaient dans le même sens. Au centre de leurs revendications trône depuis quelques années l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure, ce qui serait un levier concret pour la réduction des inégalités. C'est important, surtout dans cette période-ci où l'emploi est à son maximum. Il y a des problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, souligne le président de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, Daniel Boyer. L'augmentation du salaire minimum aurait donc une poussée sur l'amélioration des conditions de travail. Des mesures pour offrir une meilleure conciliation travail-famille-études, des outils pour opérer un virage vers une économie plus verte et des actions pour lutter contre les paradis fiscaux et ainsi mieux financer les services aux citoyens sont aussi au nombre des revendications des travailleurs. Ce sont des enjeux qui, dans le contexte électoral, nous amènent à dire à l'ensemble des partis « Engagez-vous pour la classe moyenne et la majorité de la population pour permettre une plus grande distribution de la richesse », a martelé le président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, Jacques Létourneau. Les syndicats réclament aussi que Québec réinvestisse dans les services publics et les programmes sociaux qui ont été mis à mal par les libéraux en début de mandat, estime M. Boyer. Oui, le gouvernement réinvestit cette année, mais ce n'est pas à la hauteur des sommes qui n'étaient pas au rendez-vous dans les premières années, dit-il. Ce n'est pas une bonne gestion de couper autant pendant tant d'années, d'engranger des surplus et de réinvestir. Le gouvernement a trop coupé. Il fallait rétablir un certain équilibre, on était d'accord, mais pas à vitesse grand V comme Québec l'a fait, a ajouté le président de la FTQ en entrevue à la presse. Le 28 avril est également le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Des marcheurs portaient d'ailleurs leur ruban noir samedi à la mémoire des disparus. En 2017, 62 travailleurs ont perdu la vie en exerçant leur métier au Québec. Ce sont 18 décès accidentels de moins qu'en 2016. C'est encore trop troublant, a mentionné Louise Chabot. Un double attentat a secoué Kaboul, ce matin, mais c'est plutôt tard hier, pour la ville évidemment. Double attentat suicide à Kaboul, au moins 25 morts, ça vient de l'agence France-Presse. Au moins 25 personnes, dont un photographe de l'AFP, ont été tuées dans un double attentat suicide lundi à Kaboul, dont le second a visé la presse accourue sur le site. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique qui s'en est pris dans un communiqué aux apostats des forces de sécurité et des médias. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, le double attentat a fait au moins 25 morts et 49 blessés. 6 journalistes et 4 policiers figurent au nombre des tués dans ces deux explosions, a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère, Najib Danish. L'organisation Reporters sans frontières et le Centre des journalistes d'Afghanistan ont dénombré 9 journalistes tués, dont Shai Marais, chef photographe du bureau de l'AFP à Kaboul. Le deuxième attentat visait sciemment la presse. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la chute des talibans, décembre 2001, souligne Reporters sans frontières dans un communiqué. Directeur d'école, je passe mon tour. C'est le titre de Philippe Mercure qui nous parle de la difficulté pour l'école de recruter du personnel d'encadrement. Des directeurs et directrices d'école qui décident de retourner dans les classes après seulement un an en poste. Des établissements qui supplient des directeurs à la retraite de revenir faute de relève. Des directeurs qui doivent s'occuper de 2 ou même de 3 écoles à la fois. Recruter des directeurs et des directrices d'école et leurs adjoints et les convaincre de rester en poste demeure un défi dans la province. Et l'Association québécoise du personnel de direction des écoles profitera aujourd'hui de son congrès annuel pour aborder la question avec le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. L'école du 21e siècle commande des leaders du 21e siècle et pour être capable d'amener les élèves vers la réussite, il faut être capable d'aller recruter ces leaders, puis de les soutenir et de prendre soin d'eux pour les garder, dit Danielle Boucher, présidente de l'association. Marie-Ève, enseignante de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, a déjà accepté un poste de directrice adjointe pour remplacer une collègue pendant son congé de maternité. Je sais que je ne suis pas la première à qui ils ont demandé. Ils ont vraiment dû piger dans leur banque de profs. J'ai accepté en me disant que c'était un beau défi, raconte-t-elle à la presse. Elle a fini par quitter le poste avant la fin du mandat, désillusionnée. Mes relations avec les autres profs se sont dégradées très rapidement, on ne me faisait plus confiance. J'étais rendue du mauvais côté de la force, raconte l'enseignante qui n'a pas voulu être nommée, car elle côtoie toujours certains des collègues avec qui des tensions sont survenues.
Je joue le rôle, je joue le jeu. C'est
c'est pas les mêmes règles pour eux. Je me résigne à ne pas gagner, parce que les choses ont bien changé. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Je me sens comme ci, comme ça, même souvent. T'explique, souffrir comme ça, c'est bien classique. Je le fais pour moi. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Je peux penser comme un homme. Ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Je proclame comme une sans regret, comme un homme. Je suis ma ligne, comme un homme. Mais quand tout fout le camp, oh, oh, oh. Femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire.
On aura sans doute deviné le titre de cette nouveauté de Jill Barber, Une femme doit faire.
Et je rappelle que les choix musicaux de cette émission sont le fait de son metteur en onde, Jean-Sébastien Laliberté, et qu'il en assume toute la responsabilité. Voilà, on passe immédiatement aux pages du Devoir. Devoir où Hélène Buzetti nous parle d'armes à feu dans un texte assez troublant, vous allez voir. Armes à feu et santé mentale, pas de vraie vérification. Alexandre Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec, détenait légalement un permis de possession d'armes à feu malgré un lourd historique de problèmes de santé mentale. Pourtant, au Canada, l'obtention d'un permis d'armes est conditionnelle à la vérification des antécédents médicaux du demandeur. Mais voilà, aucune vérification proactive n'est faite, a appris le Devoir. Tout repose sur l'autodéclaration. Une personne désireuse de posséder une arme à feu doit détenir un permis de possession et d'acquisition délivré par le Programme canadien des armes à feu, le PCAF, une entité relevant de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Dans le formulaire, le demandeur doit indiquer si, au cours des 5 dernières années, il a déjà tenté ou menacé de se suicider, ou si, après avoir consulté un médecin, il a fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement pour une dépression, des problèmes comportementaux ou émotifs, ou pour des problèmes d'abus de substances. Ces questions sont posées parce qu'elles aident à cerner certaines situations dont on sait qu'elles augmentent le risque qu'une personne devienne violente ou suicidaire, écrit le porte-parole de la GRC, Harold Fledrer. Si le demandeur répond oui à l'une ou l'autre de ces questions, continue le même porte-parole, il doit annexer à sa demande une page distincte dans laquelle il doit fournir des renseignements supplémentaires à cet égard. Le demandeur doit obligatoirement fournir un formulaire médical si des problèmes de santé mentale sont mis au jour pendant le traitement de sa demande. Les renseignements fournis sont évalués par le PCAF et peuvent faire l'objet d'une demande plus approfondie. Répondre oui n'entraîne pas le refus automatique de la demande. Mais si le demandeur coche non, aucune vérification supplémentaire n'est effectuée. Un demandeur a donc tout le loisir de taire ses épisodes suicidaires ou dépressifs pour s'éviter un refus potentiel. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Alexandre Bissonnette. Il a admis avoir menti sur sa demande de permis aux questions portant sur la santé mentale, a indiqué l'expertise psychologique présentée en cours pendant les observations sur la peine. Alexandre Bissonnette a obtenu son permis d'armes en octobre 2014, un mois après en avoir fait la demande. Il avait pourtant consulté à 3 reprises dans les 2 années précédant cette demande pour des attaques de panique, des troubles anxieux, des idées suicidaires et des symptômes dépressifs. Il s'était fait prescrire du lorazépam et du citalopram. On lui avait aussi suggéré de suivre une thérapie. Il avait fait une tentative de suicide vers l'âge de 16 ans. Toutes ces informations auraient dû être prises en compte dans le processus d'octroi d'un permis d'armes à feu. Il possédait légalement toutes les armes qu'il a utilisées lors du massacre. Seul son chargeur de 30 balles était illégal parce qu'il dépassait la limite de 5 prévue. Cette révélation met en lumière que les changements apportés par Ottawa à la loi sur les armes à feu n'auront peut-être aucun effet. Le projet de loi C-71 resserrant le contrôle des armes à feu déposé le mois dernier retire la référence à la période de 5 ans. Tous les antécédents médicaux du demandeur doivent être déclarés, même s'ils sont survenus plus de 5 ans avant la demande de permis. Le gouvernement fédéral a présenté ce changement comme une amélioration à la loi, mais comme aucun mécanisme supplémentaire de vérification n'est instauré, le projet de loi ne fait qu'étirer la période pour laquelle le demandeur doit auto-déclarer ses problèmes de santé. À la Sûreté du Québec, qui contrôle les armes à feu dans la province, on tempère en rappelant qu'un demandeur doit faire signer sa demande de permis par 2 répondants que les forces policières peuvent contacter pour vérifier certaines informations. En 2016, 2,08 millions de personnes possédaient un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, dont 493 000 Québécois. Les permis sont renouvelables tous les 5 ans. Il y a eu plus de 400 000 permis délivrés ou renouvelés en 2016. Seulement 771 demandes ont été refusées, notamment 139 pour cause de problèmes de santé mentale, 142 parce que le demandeur posait un risque potentiel pour autrui et 55 pour comportement violent. Les organismes qui luttent contre l'itinérance se déchirent maintenant en 2 camps, ce dont fait état Marie-Lise Rousseau. Schisme dans la lutte contre l'itinérance. Les approches à prioriser pour lutter le plus efficacement possible contre l'itinérance divisent de plus en plus le milieu communautaire. Des divergences d'opinion existent depuis quelques années, mais le départ récent de 3 importants organismes du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, met en évidence cette scission idéologique selon un expert. Le 12 avril, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et l'Accueil Bonneau, 3 ressources majeures d'aide aux personnes itinérantes, ont annoncé qu'elles quittaient le RAPSIM, un regroupement qui chapeaute 100 d'organisations et qui porte leur voix auprès des instances gouvernementales et dans l'espace public. Ces 3 organismes disent ne plus se sentir représentés par le RAPSIM, qui a exprimé publiquement au cours des dernières années des opinions contraires aux leurs, notamment sur le plan du logement, du financement et du développement des services. C'est pourquoi ils ont choisi de rejoindre à la mission Old Brewery, qui n'a jamais été membre du RAPSIM, pour former Convergence itinérance Montréal. À nous 4, on rejoint 92% de la population itinérante de Montréal. Il était donc temps pour nous de porter notre propre voix, explique le directeur de la mission Bon Accueil, Samuel Watts. Les responsables des 4 ressources ont tous indiqué au devoir travailler ensemble étroitement au quotidien, ce qui a naturellement favorisé leur association. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde, résume le président de la mission Old Brewery, Matthew Pierce. Le RAPSIM qualifie ces départs de regrettables. Néanmoins, on assure de toutes parts vouloir continuer à travailler de concert sur plusieurs dossiers communs. Ces trois joueurs majeurs ont annoncé leur départ à quelques jours du dénombrement de la population itinérante de Montréal qui s'est tenu mardi dernier. Ce dossier est la principale pomme de discorde entre ces derniers et leur ancien regroupement. D'un côté, l'accueil Bonneau, la Maison du Père et la Mission Bon Accueil sont favorables à cette initiative qui, bien qu'imparfaite, permet selon eux d'obtenir de précieuses données afin de mieux orienter les programmes et les services. De l'autre, le RAPSIM se montre plus critique. C'est un portrait très partiel de la réalité, sous-estimant plusieurs parties de la population, dont les femmes, soutient le coordinateur du RAPSIM, Pierre Gaudreau, rappelant par exemple que 80% des femmes itinérantes font tout pour ne pas se retrouver à la rue ou dans les ressources d'aide. Selon lui, il y a un danger à décider des politiques publiques en se basant sur un polaroid imparfait de la réalité. Autre enjeu qui cause des flamèches, l'attribution du financement fédéral en itinérance. Pour sa part, le RAPSIM milite depuis des années pour que cette enveloppe favorise une pluralité d'approches pour lutter contre l'itinérance, notamment en prévention. Convergence Itinérance Montréal prône plutôt un financement axé sur le logement d'abord, qui consiste à fournir aux sans-abri un logement subventionné sur le marché privé. Ça donne des résultats. On a un taux de maintien de 95%, affirme le directeur de l'accueil Bonneau, Aubin Boudreau. Le RAPSIM perd seulement trois membres sur la centaine d'organismes qu'il chapeaute, mais ce ne sont pas n'importe lesquels, souligne le professeur de l'École de travail social de l'UQAM, Michel Paradzelli. Selon lui, leur départ risque d'amoindrir le rapport de force du RAPSIM auprès des instances gouvernementales. Le RAPSIM maintenait une certaine cohésion entre les groupes pour avoir un rapport de force unifié dans les politiques en itinérance. Là, ça a pété, résume-t-il. Et voilà donc qui conclut les pages du devoir pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on aborde le Journal de Montréal.
Donne-moi le doute, la douleur, le malaise, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute, le stress, le soupçon, le frisson, le vertige. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque, et de vous, je me fous. Donne-moi le doute, la douleur, le doute, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute. Donne-moi le doute, l'indécis, l'épreuve, le souci, le spleen. Donne-moi le doute, l'ironie, la satire, le brisé, le grave. Vos vérités approximatives, vos divinités, tout autant. Mon seul salut, le cynisme. Je n'en ai rien à foutre de votre conscience, rien à foutre de vos devises, rien à foutre de vos cadences, rien à cirer de vos assurances. Je m'assume, je vous assure. Donne-moi le doute, le malaise. Le doute, le stress, le soupçon, donne-moi le spleen. le désordre, le différent, la dissidence. Donne-moi le doute, la cohue, le confus, le mêlant, le mêlé. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque et de vous, je me fous. Donne-moi le doute, le redoutable, le doute, le mêlant, le mêlé. Donne-moi le spleen. Donne-moi le doute et l'orage. Donne-moi.
Corcoran, ce grand amoureux de la langue française, du moins c'est ce qu'on peut comprendre en écoutant le texte de cette pièce, L'éloge du doute, un extrait de son album de 2005, Page blanche.
C'est maintenant au tour du Journal de Montréal et on commence immédiatement en vous parlant encore du 1er mai, mais pour vous rappeler que, comme à chaque année, le 1er mai est une date importante si vous travaillez à bas salaire au Québec, puisque c'est le 1er mai qu'augmente le salaire minimum. Le titre, le salaire minimum passe à 12 $ mardi. C'est ce mardi que le salaire minimum au Québec passera à 12 $ de l'heure en hausse de 75 sous. L'annonce de cette augmentation avait été annoncée en janvier dernier. Elle a fait partie d'un plan quadriennal visant à ce que le salaire minimum dans la province atteigne en 2020 un ratio équivalent à 50 % du salaire horaire moyen. En janvier 2017, nous avons été audacieux et innovants en annonçant une hausse progressive du salaire minimum, dont un des objectifs est d'assurer une concordance avec l'évolution de la situation économique du Québec, avait déclaré à l'époque la ministre du Travail, Dominique Vien. La bonne performance économique du travail du Québec, oui, nous autorise à augmenter de façon substantielle le salaire minimum. Selon les calculs du gouvernement, cette hausse du salaire minimum augmenterait le pouvoir d'achat des salariés concernés de 4,83 points de pourcentage. Concernant la question du salaire minimum, plusieurs des syndicats, notamment, considèrent qu'il devrait être établi à 15 $ de l'heure. La question refait régulièrement surface dans l'actualité depuis quelques années. Mercredi dernier, notamment, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, publia une étude indiquant que la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure pourrait avoir des retombées économiques significatives pour le Québec, pouvant aller jusqu'à 3,4 milliards de dollars dans l'ensemble des régions. Les associations de restaurateurs, de détaillants et de propriétaires de PME, entre autres, s'opposent à une telle hausse du salaire minimum, disant que cela serait dommageable. Pour sa part, le gouvernement du Québec a déjà fermé la porte à un salaire minimum à 15 $. Allez, vous allez me pardonner un jeu de mots absolument terrible, mais il y a des médecins qui n'ont plus le gros bout du bâton, ce que rapporte le Journal de Montréal. 8 urologues auraient facturé des frais abusifs. 8 médecins spécialistes d'une clinique de Laval sont accusés d'avoir exigé des frais déraisonnables à leurs patients. Ils leur facturaient 300 $ pour des médicaments qui ne valaient qu'une fraction de ce prix, en plus de se faire payer pour l'intervention par la régie de l'assurance maladie. Les médecins de la clinique Uro-Laval exigeaient de 300 à 375 $ pour les vasectomies qu'ils effectuaient dans leurs locaux situés à l'intérieur de la polyclinique Concorde à Laval. C'est la première fois que des urologues se retrouvent devant le comité de discipline du Collège des médecins pour faire face à ce genre d'infraction. Ils comparaîtront à partir de lundi prochain. La cause risque de faire jurisprudence puisque plusieurs autres spécialistes ont réclamé de tels frais pour des vasectomies en plus des honoraires qui leur étaient versés par la Régie de l'assurance maladie. Ce genre de frais, appelé frais accessoires, est interdit par la loi depuis janvier 2017. À chaque vasectomie, les 8 médecins de la clinique Uro-Laval faisaient payer 150 $ aux patients pour un agent anesthésiant, la xylocaïne. En pharmacie, chaque fiole de ce médicament coûte 10,59 $ et contient une quantité suffisante pour plusieurs patients, selon nos informations. Un autre produit, soit un désinfectant appelé chlorhexidrine, était également facturé 150 $ à chaque patient. En pharmacie, la chlorhexidrine se vend 4,99 $ pour une dose de 115 ml, suffisante pour plusieurs interventions. Un père de 3 enfants qui était furieux d'avoir payé un tel prix est à l'origine de la plainte au Collège des médecins. Comme contribuable, on paie déjà pour les médecins. On n'a pas à en repayer plus, dit Alexandre Marcoux. J'imagine que c'était une façon de faire de l'argent rapidement. Chaque opération prenait 15 ou 20 minutes, ajoute-t-il. M. Marcoux a contacté notre bureau d'enquête après avoir lu un reportage sur un ophtalmologiste condamné à une amende pour avoir facturé 30 $ à des patients pour des gouttes qui valaient entre 75 sous et 3,84 $. Alexandre Marcoux dit avoir été adressé à la clinique Uro-Laval par son médecin de famille. L'urologue Mathieu Bethez lui aurait alors affaire de payer 300 $ pour être opéré à la clinique la semaine suivante ou d'attendre plus d'un an pour une intervention à l'hôpital sans frais. « Je n'avais pas vraiment le choix si je ne voulais pas être pris pour attendre 2 ans pour le faire », dit-il. Une première enquête du collège a donné raison à M. Marcoux contre le médecin qui l'avait opéré et la clinique s'était engagée à suspendre temporairement les vasectomies effectuées en cabinet. Or, après un appel à la clinique, M. Marcoux s'est rendu compte qu'il facturait toujours pour les vasectomies et que les frais étaient maintenant de 375 $. De plus, la pratique semblait généralisée à l'ensemble des médecins. L'enquête a par la suite été élargie à l'ensemble des médecins de la clinique qui se retrouvent tous aujourd'hui devant le conseil de discipline. Une bactérie mangeuse de pétrole pour dépolluer, c'est un texte d'Anne-Caroline Desplanques. Une bactérie mangeuse de pétrole pourrait nettoyer nos dépotoirs toxiques, nos nappes phréatiques contaminées et faire des marées noires un cauchemar du passé, d'après une découverte québécoise. On pourrait, par exemple, l'utiliser lors de la rupture d'un pipeline dans un champ ou une rivière ou pour le nettoyage de terrains contaminés comme celui des lagunes de Mercier, un des sites les plus toxiques du Canada. Cette bactérie vorace s'appelle Alcanivorax borcumensis ou A. borcumensis pour les intimes. On la retrouve naturellement dans tous les océans de la planète. C'est notamment grâce à cette championne microscopique du nettoyage que le pétrole déversé en mer lors de déversements disparaît progressivement, naturellement. Le génome de A. borcumensis a été décodé il y a une dizaine d'années en Allemagne. Toutefois, le potentiel décontaminant de ce micro-organisme à l'extérieur de son milieu naturel n'avait jamais été évalué avant qu'il croise la route de l'équipe de Satinder Korbrar de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, à Québec. En milieu marin, ce sont des bactéries robustes et tolérantes aux hydrocarbures. Plus que tolérantes, elles en tirent leur énergie, explique la chercheuse. La bactérie produit en fait un véritable arsenal d'enzymes qui dégrade à peu près tous les composés que l'on trouve dans les hydrocarbures. Elles sont particulièrement friandes de benzène, de xylène et de toluène, des poisons très toxiques pour l'homme et l'environnement, indique la professeure Brar. Les scientifiques allemands avaient aussi documenté en laboratoire les capacités des enzymes de A. borcumensis à éliminer le mercure, le cuivre et d'autres métaux lourds. L'équipe québécoise a sélectionné les enzymes de A. borcumensis les plus efficaces et les a observées en action dans des échantillons de sol toxiques provenant de véritables terrains contaminés du Québec que lui a fourni la compagnie Technorem. Cette entreprise a notamment travaillé à la caractérisation environnementale de l'ancien dépotoir Sambo situé à Saint-Isidore sur la rive sud de Montréal. L'endroit renferme de fortes doses de contaminants, pour la plupart cancérigènes, qui menacent d'empoisonner l'eau potable. Pour débarrasser le sol des poisons, la professeure Brard prévoit encapsuler les enzymes de A. borkumensis pour les injecter dans la terre. D'après ses observations en laboratoire, les enzymes suivraient le fil de l'eau souterraine. En chemin, elles détruiraient 80 % des composés des hydrocarbures. Les chercheurs de l'INRS feront des tests sur le terrain cet été afin de bien comprendre comment les enzymes se comportent en milieu naturel. Si tout va bien, ils pourraient produire de petites armées de mangeuses de pétrole dans des bioréacteurs et les stocker dans des bassins huileux pour les déployer rapidement à la demande.
Retour en 1992 avec la formation Blind Melon et leur pièce No Rain.
C'est déjà le moment d'aller en région voir ce qui a été publié dans les quotidiens régionaux. Donc, et je commence par un avertissement. Si vous êtes parents de jeunes enfants, attention, la chronique qui suit de Marie-Ève Lambert pourrait provoquer des crises de jalousie irrépressibles. Pour un répit, appelez Vicky. Je suggère au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de faire une petite recherche sur Google, Clinique médicale privée Québec. La liste est longue. Il y a même un site qui les recense, qui résume les services qui sont offerts. On clique, on y est, on a les coordonnées et tout. Simple comme bonjour, le ministre n'a pas besoin de brandir l'épouvantail d'une médecine à deux vitesses advenant l'élection de la CAQ. Oh, pardon, je réalise à l'instant même que j'ai le mauvais texte. J'ai honte. Voilà, je l'ai dit. Le texte qui a été publié n'est pas celui que je voulais vous lire. Je vous le lirai, ou plutôt je demanderai à Hélène de le faire dès demain. Voilà. Je vais donc passer à Mylène Moisan et à une autre chronique qui nous montre que le premier ministre du Canada maîtrise, tout comme Jean Chrétien avant lui, deux langues secondes. Ceci n'est pas un incident. Mylène Moisan dans les pages du Soleil. Justin Trudeau devrait savoir ça. Le poids et le sens des mots n'est pas le même d'une langue à l'autre. Petit Robert 2010. La définition ne doit pas avoir beaucoup changé depuis. Page 1300. Incident. Nom masculin, du latin scolastique incidence, petit événement qui survient, un incident sans importance, sans gravité. On propose des synonymes, péripétie, accroc, anicroche. L'Office québécois de la langue française le présente comme un petit événement qui se produit inopinément. Une crevaison, c'est un incident. À la limite, se casser un branski. À part l'incident diplomatique qui peut dégénérer, les conséquences d'un incident sont plutôt limitées. On en dira qu'il est fâcheux. Lundi, Justin Trudeau s'est levé en chambre. Un homme au volant d'une camionnette venait de semer la mort sur la rue Yonge. Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Nous tiendrons les Canadiens au courant. Ce qui s'est passé à Toronto n'est pas un incident. J'ai sursauté en entendant le premier ministre. Mon premier réflexe a été de conclure au manque de jugement, à la banalisation. Quand il y a mort d'hommes et de femmes dans des circonstances si tragiques, les mots sont importants. Puis j'ai vu des médias sur Internet parler eux aussi de l'incident de Toronto, des articles traduits souvent. Il devait y avoir une explication. Petite recherche sur Google. Definition incident English. Bingo. En anglais, le terme peut être employé pour décrire un événement grave comme une fusillade, un shooting incident. Le Globe and Mail, à propos du carnage de Toronto et de la tuerie de la mosquée à Québec, a parlé de terror incident. En français, terreur et incident sont incompatibles. Justin Trudeau devrait savoir ça. Le poids et le sens des mots n'est pas le même d'une langue à l'autre. Déjà qu'il malmène allègrement la langue de Molière quand il adresse un problème ou une catastrophe et qu'il répète ad nauseam à la fin de la journée comme le faisait Harper avant lui. Sauf que Trudeau, lui, est fluent dans les deux langues. Et il devrait en théorie montrer l'exemple ou du moins chercher à corriger les erreurs qu'il commet. Quand je fais une faute, je remercie toujours les lecteurs qui les portent à mon attention et je m'amende. Depuis le temps, j'ai appris qu'il faut pousser à la roue et non y mettre l'épaule, tenir pour acquis au lieu de prendre. On ne frappe pas un mur, on se heurte à lui. On n'est pas sorti de l'auberge plutôt que du bois. Encore faudrait-il que Justin Trudeau sache que son français est truffé d'anglicismes et de mots mal utilisés comme « incident ». Ce serait un début, lui qui, il y a moins de deux semaines, prononçait ces mots devant les députés de l'Hexagone à l'Assemblée nationale française, rien de moins. Si la langue française est toujours si vivante en Amérique du Nord, 4 siècles après la naissance d'un berceau français sur le continent, c'est que le Canada, et notamment le Québec, s'est profondément engagé à la garder vivante. La France, comme le Canada, se doivent aujourd'hui de faire de cette langue un outil de modernité, de travail, de prospérité. Il a cité Antonine Maillet, première lauréate canadienne du Goncourt. Un arbre est plus qu'un arbre. Il est tronc, racines, sèves, feuilles, fruits, vent dans les branches, nid d'où s'échappent les oiseaux du ciel. C'est la plus belle image que m'inspire la francophonie. Primo, le Canada ne s'est pas beaucoup forcé depuis 4 siècles pour garder la langue française vivante. Deuxio, au grand discours, je préfère les beaux et les bons mots. À Québec, toujours, des parents réclament une escouade mixte dédiée aux disparitions. C'est un texte de David Rémillard dans Le Soleil. Les parents de Marilyn Bergeron, disparus depuis 10 ans, appuyés par de nombreuses familles vivant le même supplice, ont de nouveau demandé dimanche des changements aux pratiques policières dans les cas de disparition. Ils réclament entre autres la création d'une escouade mixte spécialisée, une idée notamment appuyée par la coalition Avenir Québec. À l'invitation de la famille Béchard-Bergeron, une centaine de personnes ont bravé le temps exécrable dimanche à Lévis à l'occasion d'une marche en hommage à Marilyn Bergeron. Le cortège a culminé devant le café-dépôt de Saint-Romuald, dernier endroit où la jeune femme a été vue vivante. Cette dernière, qui avait 24 ans à l'époque, est portée disparue depuis le 17 février 2008. Avant sa disparition, elle avait quitté Montréal pour retourner vivre chez ses parents à Loretteville. Une décision soudaine, selon eux. Elle est disparue quelques jours après le déménagement. Puisque le signalement de sa disparition a été fait à Québec, l'enquête a été confiée au service de police de la ville de Québec. Mais selon la famille, la clé de l'énigme pour retrouver Marilyn est à Montréal. Maître Marc Bellemare, qui accompagne la famille, a une nouvelle fois demandé dimanche que l'enquête soit transférée à la Sûreté du Québec. Merci à la police de Québec qui a fait un bon travail, mais il est temps de jeter un regard neuf dans le dossier de Marilyn, a-t-il déclaré après la marche. Se basant sur leur propre cas, mais aussi sur les expériences vécues par d'autres parents, André Béchard et Michel Bergeron demandent à ce que les pratiques policières changent. On entend et on nous dit qu'une disparition, ce n'est pas traité comme un dossier criminel. Dans notre système actuel, l'enquête, une fois en cours, malheureusement, devient moins prioritaire, a déploré Mme Béchard dans son discours. Ultimement, ses parents, dont la cause est appuyée par l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues et le réseau Enfants Retour, réclament la création d'une escouade mixte spécialisée dans les cas de disparition. En éditorial dans le Nouvelliste, Martin Francoeur suggère de s'attaquer aux fausses nouvelles, pas les fake news, là, les fausses nouvelles qui sont pas vraies. Le Canada devrait prendre des notes à la suite de l'initiative déployée en Europe pour s'attaquer aux fausses nouvelles. L'Union européenne s'adresse aux géants du web comme Google, Facebook et Twitter pour que ceux-ci adhèrent à un nouveau code de conduite en cette matière. Avec lucidité, l'Union européenne reconnaît que le phénomène est devenu préoccupant et problématique, notamment quant à ses répercussions sur l'humeur électorale des citoyens. S'attaquer aux fausses nouvelles n'est pas une mince affaire. Il faut évidemment trouver à qui s'adresser, savoir quelle poignée prendre. Il faut avant tout pouvoir déterminer ce qu'est une fausse nouvelle et qui a le pouvoir de porter un tel jugement. La Commission européenne a décidé de confier, en quelque sorte, une bonne part de cette responsabilité aux plateformes en ligne. D'ici juillet, celle-ci devrait établir un code de bonne pratique et y adhérer. L'exercice a pour but d'identifier le contenu politique commandité, de mettre en place des règles pour fermer les faux comptes, de mieux surveiller la désinformation et de mettre sur pied un réseau indépendant de vérification des faits. Contraindre les gros joueurs du web à agir parce que leur plateforme joue un rôle important dans la propagande de fausses nouvelles constitue un bon début. Ce sont leurs infrastructures que les acteurs mal intentionnés utilisent pour diffuser des informations fausses ou tourner à leur avantage. C'est devenu monnaie courante. Des individus, des groupes idéologiques, des partis politiques et des influenceurs de tout acabit tentent, par la manipulation et la désinformation, de contaminer la population en général ou de cibler des individus. De telles pratiques sont de plus en plus utilisées en période électorale. Au Canada, on est aussi conscient que les fausses nouvelles constituent une menace envers les institutions démocratiques, mais on n'a pas encore trouvé de moyens concrets pour s'attaquer au problème. Des documents obtenus par la presse canadienne en vertu d'une demande d'accès à l'information démontraient toute l'impuissance du gouvernement canadien face à ce phénomène relativement nouveau. Ces documents, qui sont essentiellement des notes d'information préparées en novembre dernier pour la ministre du Patrimoine Mélanie Joly par son sous-ministre Graham Flack, mentionnaient que le gouvernement fédéral ne croit pas pouvoir faire une différence à lui seul pour endiguer le flot de fausses nouvelles qui déferlent sur le Canada. Là où le bât blesse, c'est dans la détermination de ce qui doit ou non être considéré comme de la fausse information. Un tel mandat, évidemment, ne peut être mis entre les mains du gouvernement. Cela aurait certainement un effet contraire, exacerbant la théorie du complot que certains dénoncent déjà sans grand discernement. Les notes obtenues par la presse canadienne évoquaient la possibilité pour le gouvernement d'établir des partenariats entre les entreprises de médias sociaux et des organisations d'éducation aux médias afin de combattre la désinformation. Une telle notion de partenariat demeure trop floue. Il faudra quelque chose de plus contraignant. Le gouvernement est en droit d'exiger des résultats. C'est plus que jamais une nécessité. Le temps de vous parler rapidement d'une poursuite de 781 000 $ contre Parc Canada. C'est Nancy Massicotte qui en parle dans le Nouvelliste. Des touristes français ont intenté une poursuite civile de plus de 780 000 $ contre l'agence Parc Canada parce que le tronçon d'un arbre est soudainement tombé sur le monsieur et il l'a blessé aux côtes ainsi qu'à l'épaule. Voilà, donc on poursuit Parc Canada pour un touriste attaqué par un arbre. C'est quand même plus original.